franceinter.fr.
Et à la une de la science aujourd'hui, l'épopée Philae.
Après un voyage de 10 ans, plus de 6 milliards de kilomètres parcourus, la sonde Rosetta est arrivée à destination. C'est un peu le même type de rendez-vous que si vous lanciez un grain de poussière depuis Paris et vous faites en sorte qu'il rencontre un grain de sable qui voyagerait à 1 km au-dessus de New York à 70 000 km/h. Vous imaginez la complexité. C'est un succès incroyable de l'Agence spatiale européenne que d'avoir réussi à se poser sur cette comète.
Et c'est la voix de Stéphane Lemouilly qui est ingénieur au CNRS. Elle s'est posée donc sur la comète Chury le 12 novembre 2014, non sans peine. Elle restera muette pendant presque 7 mois, affrontant le froid intense, puis la chaleur du soleil. Et malgré ses nombreux déboires, le petit robot Philae de l'ESA reste l'événement spatial de l'année. Et la science qu'il nous a fournie via la sonde Rosetta est précieuse. Philippe Godon, vous êtes en ligne avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes depuis Toulouse, chef du projet Rosetta pour le CNES. Et puis en studio avec nous, Sylvain Boulet. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes planétologue à Géosciences Paris-Sud. Quel est d'abord à tous les deux votre souvenir le plus marquant sur toute cette aventure Philae, Sylvain Boulet?
De mon côté, forcément, c'est le moment où Philae a donné la première image de l'affleurement de la comète. Parce que je suis géologue de formation et évidemment, j'ai envie de toucher le caillou. Et finalement, pour la première fois, Philae a fait un gros zoom du caillou. Mmh. Et voilà, force est de constater que ça ressemble quand même à plus que de la roche, que de la glace en fait.
Philippe Godon, pour vous?
Pour moi, c'est les minutes qui précèdent et qui suivent le moment de l'atterrissage tel qu'on l'avait prévu. Et on a eu ce fameux rebond et on ne savait pas pendant combien de temps. Et tout s'est bien terminé, c'est-à-dire que Philae est venu s'arrêter sur Abydos juste avant la perte de communication. Mmh. Moment stressant, mais très intense.
Avec le recul, quel est votre regard sur cet pseudo-échec de l'atterrissage? Est-ce que des dysfonctionnements auraient pu être évités?
Il aurait fallu vraiment voir ça au moment où on construisait Philae. Et c'est vrai que Philae était construit il y a très longtemps, dans l'urgence, et c'est un exemplaire unique. Donc on n'avait pas de recul sur un atterrisseur. Donc on savait que c'était une mission risquée, et il était difficile de dire à quel moment, quel endroit, enfin quel sous-système pouvait flancher. Et là, il y a eu deux sous-systèmes, nos propulseurs et nos harpons, qui n'ont pas fonctionné. Mais ça n'a pas quand même remis en cause complètement la mission. Donc, avec le recul, c'est quand même extrêmement positif.
Ouais, Sylvain Boulet, finalement, l'endroit où s'est posé Philae n'était pas si mal pour faire de la science?
Pour moi, finalement, je pense que c'est mieux. Parce que le Philae se serait posé normalement, il aurait pris une jolie photo d'un panorama. Voilà, on aurait vu les roches un petit peu de loin. Alors que là, finalement, on est collé à la face rocheuse. Et bon, voilà, pour le grand public, montrer à quoi ressemble le sol d'une comète, c'est la meilleure image qu'on peut proposer.
Qu'est-ce qui a changé, Philippe Godon, de la connaissance des comètes depuis ces images et ces résultats de Rosetta et Philae?
Il y a déjà une confirmation de la théorie de formation du système solaire. Et puis, au-delà de la formation du système solaire, vous savez que les comètes peuvent avoir amené l'eau sur la Terre et dans l'eau des molécules organiques complexes. Eh bien, Philae a trouvé, parmi d'autres, je pense, 16 molécules complexes organiques qui sont celles qu'on allait rechercher en fait à la surface de la comète. Donc c'est un premier grand succès. Après, au-delà, par exemple, l'instrument CONCERT a pu regarder l'intérieur, sonder l'intérieur de la comète, n'a pas vu en fait de gros grumeaux comme on pouvait s'y attendre à l'intérieur de la tête de Chury. Donc je ne sais pas si ça remet en cause, mais disons que c'est peut-être une autre façon de former le planétoïde, qui est une comète.
Sylvain Boulet, on a changé d'échelle dans la connaissance des comètes. On est passé du champ large au champ serré maintenant?
Oui, c'est vrai que jusqu'à maintenant, en fait, on avait une idée d'une comète. Finalement, quand on vulgarisait, on disait que c'était une boule de neige sale. Et aujourd'hui, quand on voit les analyses, on voit bien quand même qu'on a affaire à du matériel rocheux, avec certainement dans les pores, finalement, de la glace. Mais quand on regarde la surface même de la comète, on a très peu trouvé de glace d'eau à la surface. La glace, elle est en profondeur. Et donc, finalement, quand on se pose à la surface de la comète, on trouve plutôt un matériel rocheux. Donc ça, c'est vrai que c'est une autre vision de la comète qu'on a aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est notre rôle d'expliquer ça au grand public, c'est que finalement, on a plutôt affaire à une roche, à un gros massif rocheux avec un peu de glace, qu'une grosse boule de glace avec un peu de roche.
La glace qu'on trouve sur une comète, c'est exactement la même que la glace qu'on trouve sur Terre,
hein? Alors, ça va pas être exactement la même. Justement, on a pu mesurer aussi un petit peu, comprendre un petit peu cette eau qui était éjectée par la comète. On a vu que c'était une eau un petit peu plus lourde, notamment en mesurant les rapports du deutérium et de l'hydrogène. Ouais. On a vu qu'il y avait ce rapport était plus important sur la comète que sur Terre, ce qui montre finalement que la source de l'eau sur Terre n'est certainement pas exactement cette famille de comètes. C'est certainement plusieurs sources différentes, mais pas forcément celle de la comète Churyumov.
Philippe Godon, est-ce que vous regrettez de n'avoir pas pu forer la surface de Churi?
Ah oui, quand même un petit peu, parce que ça aurait donné encore des résultats plus importants en termes sûrement de molécules complexes retrouvées, etc. Donc on avait une méthode qui est le reniflage de gaz et de poussière qui a bien fonctionné, mais qui ne pouvait pas apporter autant que la récupération d'un échantillon, enfin d'un petit morceau de sol, et d'un chauffage par des fours à différentes températures, etc., l'envoyer dans des colonnes chromatographiques. Il y avait plein de choses qu'on aurait pu faire. Bon, c'est un petit regret, mais vous savez qu'on considère qu'on a obtenu à peu près 80% des données attendues.
On est le 1er janvier 2016. Vous gardez espoir de renouer contact avec Philae sur la comète?
Bien, la probabilité, si vous voulez, s'affaiblit parce que la comète s'éloigne, donc l'énergie diminue à bord de Philae, mais on conserve encore sur les 3-4 semaines à venir un espoir de pouvoir reprendre contact.
Ouais. Sylvain Boulet, les quelques jours là qui arrivent vont être importants aussi pour l'observation de ces objets.
Oui, finalement, quand on regarde une comète, eh bien, on voit un assemblement de particules. Et ces particules, on peut les voir quand il y a des étoiles filantes sur Terre. Effectivement, le 3-4 janvier, on va avoir le maximum des quadrantides, qui est finalement certainement l'entrée atmosphérique de petites particules cométaires. Et donc, voilà, j'invite vraiment tout le monde à sortir dehors pour voir cet essaim d'étoiles filantes majeures, hein, qui finalement produit autant d'étoiles filantes que les perséides au mois d'août, hein. Donc sortez dehors, allez voir les étoiles filantes, hein. On devrait peut-être en compter une centaine à l'heure, donc c'est un des gros essaims d'étoiles filantes à l'année. Donc vraiment sortez et vous verrez, voilà, des petites particules cométaires se vaporiser dans l'atmosphère.
Donc on verra les rois mages et les étoiles filantes.
Est-ce qu'on peut faire de la science à ce moment-là, au moment où cette pluie d'étoiles filantes est dans le ciel?
Oui, alors si de gros morceaux rentrent dans l'atmosphère, potentiellement on pourrait retrouver un bout de comète, hein. C'est ce que va faire d'ailleurs le programme Fripon Vigilance Ciel, qui est mené par l'Observatoire de Paris, le Muséum d'Histoire Naturelle et l'Université Paris Sud. Le but de ce programme, qui va être fonctionnel à partir du mois de février, ça sera de surveiller le ciel 24 heures sur 24 et de voir si un bout de comète ou un bout d'astéroïde tombe sur Terre et de pouvoir retrouver la météorite et enfin connaître finalement la source de ces objets, ce qui n'a jamais été vraiment trop fait jusqu'à maintenant.
Ah ben, l'année commence bien pour vous alors finalement. Ah ouais, hein. Il y a de très belles choses en perspective. Merci Sylvain Boulet. Merci à vous Philippe Godon.
Merci.
Et puis très belle année 2016 également à vous. Merci Axel.
À la semaine prochaine Mathieu.
Dès lundi.